Je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir eu la gentillesse de venir jusque dans notre maison. Moi qui suis un hérétique, je reçois toute la famille et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci encore. Alors, je vais commencer. On va faire 10 minutes, un quart d'heure avec Catherine pour expliquer comment est née cette maison, à quoi elle sert. Et après, je vous dirai d'autres choses sur pourquoi je fais 70 ans de sacerdoce aujourd'hui. Pourquoi cette maison? Après avoir travaillé pendant presque 10 ans dans cette ferme d'accueil que beaucoup d'entre vous ont connue, j'ai pris 2 ans à Saint-Péret dans un foyer logement qui malheureusement n'observait pas les lois d'un foyer logement. C'était transformé en maison de retraite où tout le monde devait manger, etc. Plus tout un climat délétère que j'ai commencé à dénoncer et on m'a fait savoir que ma présence n'était pas agréable. Alors j'ai préféré partir, mais j'ai dit, bon, c'est très joli, je vois comment est cette situation de cette maison, puis de beaucoup d'autres maisons de retraite. Je voudrais chercher une solution pour donner à des gens qui vieillissent la possibilité de vieillir toujours dans la vie, pas seulement avec des gens âgés, mais avec des gens de toute génération. Donc essayons de trouver une maison et faisons une expérience de maison partagée intergénérationnelle. Pour faire une chose pareille, il faut trouver la propriété, trouver l'endroit, trouver des sous et trouver les gens. Alors le lieu, je l'ai trouvé tout à fait par hasard, puisque après sortie de la maison de retraite, j'ai vécu tout près de Catherine, là-bas, dans un appartement que d'autres connaissent aussi. Et je venais souvent me promener par ici, parce que c'était pas très loin. Et j'avais vu cette maison qui me semblait convenir parce qu'elle avait des entrées individuelles. Alors que dans beaucoup d'autres grandes maisons qu'on a visitées, il y avait le couloir d'entrée où tout le monde devait passer obligatoirement. Et donc il n'y avait pas de vie complètement indépendante et privée autonome. Donc là, je me percevais qu'il y avait plusieurs entrées. Et de fait, c'était comme ça. Donc après, par chance, la maison s'est trouvée mise en vente et Catherine, à travers un journal, le journal de la Nef, cette banque solidaire, avait un journal qui s'appelait Vif Argent et on a intéressé les gens pour savoir si les gens étaient intéressés. Après tout, il en est resté, en plus de Catherine, 2 autres personnes qui étaient prêtes, qui ont investi, non pas pour avoir des sous, mais pour que vive cette maison. Et ils sont toujours propriétaires, ils n'habitent pas ici, mais ils sont toujours intéressés et ils désirent que cette maison continue. Donc, comme j'ai toujours dit, il faut d'abord faire et parler ensuite. Alors j'ai surtout, ne parlons pas à la mairie, ne parlons pas au maire, faisons les choses. Et donc on a commencé très vite avec un jeune ménage, 2 enfants qui ont logé à l'étage. Moi j'étais en bas et je pouvais recevoir des gens. Et on a commencé à avoir des étudiants qui évidemment ne restaient qu'un an ou plus, tenus par leurs examens. Mais soit ce ménage, soit les jeunes qu'on a vus qui ont passé les uns après les autres dans les différents logements d'en bas, on a trouvé toujours des gens qui vraiment rentraient autant qu'ils le pouvaient dans cet esprit d'une maison partagée où chacun a son autonomie, son intimité, mais qui en même temps accepte de vivre dans la solidarité. Alors solidarité, c'est un grand mot. Ça peut concevoir, peut-être Catherine va mieux expliquer mieux parce qu'elle a en main un peu toutes les choses matérielles, le jardin et tout ça. Mais pour moi personnellement, c'est vraiment le contact. Oui. Ah ben voilà, ça arrive encore. C'est vraiment le rapport dans le quotidien. Je vais vous donner un exemple pour dire comment peut fonctionner cette chose-là. Je me rappelle, évidemment c'est typique, c'est pas universel. Bienvenue. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que ça se renouvelle, mais pour vous dire l'esprit. C'était un dimanche, la famille qui habite là-haut, donc une famille avec trois enfants, me dit, écoute, on a des invités, il faisait beau, c'était comme maintenant, on va manger dehors, là-bas, pas très loin de chez Catherine, on va installer une table et on va inviter pour manger nos amis. C'est le papa Luc qui vient me dire, écoute, on va se mettre le plus loin possible pour ne pas t'empêcher au début de l'après-midi de faire ta sieste, on va éviter le bruit en allant très loin. Bon. Peu de temps après, arrive la maman qui, elle, m'apporte un morceau de, je sais pas si c'était une pizza ou une tarte, qui me dit, écoute, on veut vraiment que tu participes à notre petite fête, même si tu viens pas jusque là-bas, tiens, voilà un bon morceau à manger. Bon, je m'assieds. À ce moment-là, la petite, la Zoé, qui va venir tout à l'heure avec sa mère, arrive et me dit, bon, je veux un bisou. Bon, on fait un bisou. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben, on va un petit peu être tranquille. C'était l'heure commençait à s'avancer. Et je vois Nelly, que vous venez de rencontrer, qui me dit, écoute, Paul, je vais prendre mon bol, je viens manger avec toi. Eh bien, viens manger avec moi. Voilà, je veux garder cette image pour dire dans quel esprit, de quelle façon il peut y avoir ce respect mutuel, ce sens du voisin, ce sens de la solidarité. Yo, ça ne marche pas toujours très bien. C'est évident que rien n'est parfait et qu'on pourrait dire qu'il y a eu beaucoup de manques, des périodes difficiles, etc. Mais voilà, je retiens cette proximité dans le souci de l'autre. Évidemment, surtout le souci du moi qui suis le dinosaure de la maison. Donc, surtout quand il manque quelqu'un comme Catherine qui s'en va pour une maison ou l'autre, je suis certain qu'il y aura une visite le matin ou le soir. Paul, qu'est-ce que tu veux? As-tu besoin de quelque chose? Voilà. C'est ça qui, pour moi, a été la manière d'exprimer ce que je désirais, une maison intergénérationnelle où on a le sens des autres, et où on peut continuer à vivre et à aborder les années de vieillesse dans la tranquillité je peux dire que grâce à cette chose-là et à toutes ces personnes qui m'ont entouré, je passais ce temps et je passe ce temps heureux. Voilà ce que je voulais vous dire. On va passer la main à Catherine parce qu'elle est là. Elle a tous les problèmes matériels, elle a toujours beaucoup de listes.
C'est pas intéressant les problèmes matériels.
Non, ouais. Je sais pas. Ah, oui, dire un peu le jardin, comment ça peut s'organiser.
C'est la vie quand même, parce qu'il n'y a pas ça.
T'as très bien résumé. C'est vrai que moi j'ai différentes casquettes qui ne sont pas toujours marrantes. Parce que je suis la seule propriétaire et que tout le monde est locataire. Donc quand il y a des décisions à prendre, j'essaie de faire de la démocratie participative. Mais quand c'est embêtant à résoudre, on dit que t'es la propriétaire. Et du coup, on me remet ma casquette. Donc ce qu'on a choisi quand même, c'est d'être des propriétaires différents. C'est-à-dire de ne pas faire d'état des lieux, de pas chipoter sur 3 jours de plus ou 3 jours de moins dans l'entrée, l'arrivée, le départ. D'essayer de faire toutes les charges en collectif. Et ça, c'est pas facile à gérer parce qu'on a toujours envie de dire que l'autre dépense certainement plus que nous et que c'est nous qui payons pour les autres. Mais d'un autre côté, c'est très stimulant d'essayer de faire des économies parce que si on laisse couler de l'eau, les voisins l'entendent. Si on laisse des lumières allumées, et on vous le signale. Et donc, on partage toutes les charges et le chauffage est payé au mètre carré par appartement et l'eau, l'électricité est payée au nombre d'habitants. Donc la famille qui a 3 enfants, les enfants payent pour moitié. Donc on gère ça en commun. C'est une amie qui ramasse les charges. Comme ça, je n'ai pas d'argent à récolter. Parce que sinon, c'est pas très marrant pour moi d'aller réclamer à l'étudiant qui ne peut pas payer, je ne sais pas quoi. Et en général, on laisse passer quelques mois celui qui ne peut pas payer ou on arrange par exemple, la taxe d'habitation, on ne peut pas payer à Paul et à l'étudiant, et puis Nelly et moi, on gagne plus, on se partage comme ça pour selon les moyens.
Oui, pour expliquer, il y a donc volontairement, on a gardé un seul compteur électrique, un seul compteur d'eau et un seul chauffage. Comme ça, chacun se sent responsable des autres.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Une fois par mois, on a une réunion collective entre nous, une réunion de maison avec un repas en commun, les chantiers, les tâches de nettoyer les parties communes, de faire le jardin tous ensemble, parce qu'on ne trouvait jamais une date. Ça n'allait jamais à tout le monde, alors on s'est dit, on se prend un principe de faire tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc c'était il y a 2 jours, on a eu cette réunion. Et on prend surtout les calendriers, chacun a son agenda, et on regarde qui va être là ou pas là dans la maison pour que Paul ait toujours un habitant toutes les nuits de l'année. Et ça c'est une exigence qu'on s'est donnée tous, et en fait aux périodes difficiles comme Noël, Pâques, tout ça, on essaie qu'il y ait toujours quelqu'un, sinon il faudra appeler des voisins de Saint-Péret pour qu'ils viennent dormir là. Et on a mis à Paul une sonnette au pied de son lit qui sonne à l'étage au-dessus. Il a une sonnette manuelle qui sonne chez les autres. Avec moi, il a comment ça s'appelle, quoi,
Un interphone.
Donc voilà, il s'est servi tous les moyens de communication pour pouvoir prévenir en cas de problème. Qu'il a la sécurité d'avoir des voisins à côté. Son appartement est fait pour qu'il n'y ait qu'une porte à ouvrir pour qu'on l'entende. Mais c'est sûr que je suis engagée maintenant à promouvoir ce type de lieu ailleurs, notamment dans des HLM. Et comme on a 10 ans, on va avoir 10 ans cette année, eh bien, on nous demande comment on a fait pour durer, quoi. Comment on s'entend, comment on fait pour s'entendre. Et moi, je pense qu'il faudrait organiser des sessions de communication non violente pour que les gens apprennent à dire quand ils ont un mal vécu, qu'on n'attende pas que ça s'envenime. Et donc, Paul et moi, on est aguerris un peu à ça avec l'expérience qu'on a eue avant dans la ferme d'accueil à Toulon. Et on essaie d'arranger les choses avant que ça se dramatise. Mais bon, on essaie d'avoir toutes les tranches d'âge, donc quand je cherche des nouveaux locataires, je dis ça dépend quel âge vous avez. Alors les gens nous répondent au téléphone, comment ça, quel âge on a, mais c'est de la ségrégation. Et en fait on dit parce que vous êtes dans une association, oh non alors on ne veut pas aller dans un truc comme ça. Je dis bah comme ça c'est très bien, ça limite.
C'est réglé. Voilà.
Mais ce qui est difficile, c'est comme les loyers ne sont pas élevés parce que les 3 propriétaires ne cherchent pas à faire une rentabilité, mais que le projet marche, ben c'est difficile pour le locataire de ne pas être attiré par ce loyer en premier plutôt que par l'habitat groupé. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de détecter à l'entrée, et on dit aux gens, écoutez, passez là 8 jours, 15 jours, comme vous voulez, à laisser, et quand vous sentez que c'est bien ou pas bien pour vous, et ben vous dites si vous voulez rester ou pas. Donc à l'inverse d'une agence qui fait visiter un logement, on a un quart d'heure pour décider si on veut loger là, et on n'entend pas tous les bruits et tout ça. Ici on peut dormir sur place et attendre 8-15 jours avant de décider. Pendant ce temps là on rencontre tout le monde. On insiste beaucoup là dessus c'est garder l'esprit de la maison et surtout sentir la solidarité entre les gens. Et c'est pas une expérience qu'on trouve beaucoup en France, pratiquement il n'y en a pas. Parce que des maisons de location qui sont en habitat groupé, à part chez les étudiants, mais en intergénérationnel comme ça, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Alors, les gens sont assez intéressés. D'ailleurs, on a eu un prix de la Fondation de France pour ça. Parce que c'est une entreprise privée. Ce sont des citoyens qui ont organisé ça, alors que souvent, ça vient des mairies ou des instances publiques, quoi. Donc, on a eu une subvention de 18 000 euros au départ. qui nous a permis de choisir les meilleurs matériaux pour améliorer la maison, faire de l'isolation dans le toit écologique. Et du coup, là, on est un peu... comment je dirais, pour moi, c'est moins passionnant parce que le projet est réalisé. Je veux dire, maintenant, c'est la routine un peu du quotidien. Donc, je serais bien, par contre, pour relancer ça ailleurs et passer la main. C'est un peu une période où j'aurais envie de passer la main. Parce que moi, je suis un peu comme Paul, on est des constructeurs de projets. On aime bien lancer. Bon, et moi, une fois que ça marche, je passe à mieux qu'il y en a d'autres. Donc les autres qui vont arriver, le couple qu'on voudrait trouver, qui va remplacer celui qui s'en va après 6 années, je voudrais qu'ils prennent la direction de la maison, ou en tout cas qu'ils achètent des parts, qu'ils rachètent les parts des deux autres propriétaires pour pouvoir être avec moi en copropriété et pouvoir prendre le flambeau par la suite. Je n'ai pas encore cherché, parce que leur maison démarre tout juste, ils en ont pour 6 plus de 6 mois. Ils ont perdu un mois dans la flotte là pour démarrer leur chantier. Et donc j'ai jusqu'à Noël pour trouver. Donc chaque fois que je vais à une réunion, j'en parle, j'ai mis le bouche à oreille. Mais j'attends beaucoup des gens qui vont arriver et reprendre un peu les rênes avec moi. Voilà. Ça a l'air de rien, mais ça s'anime un lieu comme ça en permanence. Sinon ça retombe vite, quoi. Chacun peut rester chez soi et pas faire attention. Et puis de plus en plus, la maison est ouverte sur l'extérieur, il y a des choses qui se passent dans notre pièce commune. Là, on reçoit la MAP, qui est le groupement des producteurs, qui vient, parce qu'il y a des abonnés, des gens qui sont abonnés avec des paniers, donc ils viennent livrer ici dans la cour. Ici, il y a 40 couples qui viennent chercher leur panier en une heure. Et puis sinon, cette pièce est à prêter à qui veut, donc il y a des groupes de toutes sortes qui passent. Et donc on a installé une cuisine, les gens peuvent amener leur repas, réchauffer. Voilà. Puis on a aussi une laverie là-bas, une petite salle qui est aussi collective pour le linge. Et là-dedans, on a aussi une chambre d'amis avec un cabinet de toilettes, parce qu'il fallait forcément qu'il y ait des toilettes dehors pour que les gens qui sont accueillis dans la pièce commune puissent ne pas déranger dans les appartements. Et l'avantage de ce lieu, Paul l'a dit, c'est qu'il y a des portes individuelles pour chacun au rez-de-chaussée. Donc le grand appartement du rez-de-chaussée a été coupé en 3 studios et on n'a rien coupé en fait, on a condamné entre guillemets des portes, mais tout est encore à ouvrir si on veut, il n'y a pas de mur de séparation. Et Paul par exemple, il occupe que la salle de séjour de l'appartement. L'étudiante, elle a que la cuisine et une chambre. Nelly, elle a une salle de piano qui était derrière, enfin, on a réparti comme ça. Au-dessus, il y a un grand appartement. Et moi, je vais occuper le garage qui est là, dans lequel je me suis fait 2 pièces. Et là, ça a été complètement chamboulé et refait. En 5 ans, à peu près, j'ai fait ça. Donc, j'ai habité à peu près tous les logements dans la grande maison le temps que je m'installe là-dessus. Et l'avantage de ce lieu, c'est qu'on a des parcelles de jardin qui sont très éparpillées. Ce qui fait qu'on peut recevoir, une famille peut être dans un coin, d'autres dans un autre. Et tous ces petits logements, toutes ces petites maisons indépendantes font que on peut faire la fête ici sans gêner dans la grande maison. Moi, je peux recevoir tranquille là. Enfin, c'est l'idéal en tout cas. Voilà, puis derrière, alors le projet, ce serait que derrière, il y a 7 hectares de friches. On a une période cru qu'on allait réussir avec le maire à dégoter 1000 mètres carrés pour pouvoir reconstruire une autre maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient preneurs pour agrandir le lieu. Et on voudrait refaire même chose, une deuxième famille, une deuxième personne âgée, un autre étudiant, parce qu'il faut être à peu près 15 pour qu'un groupe soit homogène. Et là, on n'est pas assez nombreux. Très vite, la maison est vide parce que c'est la fête, parce que c'est des... Voilà. Donc l'idéal d'un projet comme ça, c'est qu'il s'agrandisse dans une deuxième tranche. Et le maire pensait faire un terrain de foot, une piscine olympique, tout ça contre notre grillage. Il y aurait eu un parking tout contre, et heureusement la DDE lui a interdit de faire son projet et maintenant il démissionne. Donc on a peut-être des chances qu'avec le maire suivant, qui voulait réquisitionner pour faire une ZAC, une zone d'aménagement concertée, peut-être que le maire suivant sera plus ouvert. Il y en a un qui risque de se présenter, qui nous aime beaucoup, c'est le conseiller général. Et lui, il nous a beaucoup soutenus au départ. Donc si jamais c'est lui qui passe comme maire, je crois qu'il nous soutiendrait dans un projet comme ça.
Et parce que suite à divers articles dans les journaux, soit les journaux locaux ici, le Dauphiné, Dauphiné Libéré, soit dans la revue La Vie, il y a eu différents articles où les gens sont venus s'informer et ont diffusé un petit peu la chose. Alors on a eu toute une série de gens qui sont venus, qui ont écrit, qui ont téléphoné. On aurait vraiment des gens tout à fait prêts non seulement à participer, mais à investir pour que puisse s'agrandir cette maison et devenir vraiment un petit peu le rendez-vous des braves.
C'est un peu un projet pilote et moi maintenant je m'engage à essayer d'en parler dans des mairies, tout ça, qu'on arrête de penser qu'il n'y a que les maisons de retraite qui vont permettre aux vieux de vieillir tranquillement, alors que c'est des prisons dorées où ils n'ont plus le droit de toucher à rien. Ici, chacun a sa place, Paul a plein de petites responsabilités. Et il est surtout le centre de la maison, parce que comme il est toujours là, on lui demande si quelqu'un est passé. Il a un calendrier très bien fait dans sa cuisine où tout le monde inscrit toutes les activités. Donc il peut suivre qu'une rentre de la musique, l'autre part à la piscine, que le troisième. Et il suit toute la maison comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut maintenir quelqu'un dans sa vieillesse, encore dans la vie.
Oh. Des questions?
Pourquoi le mari galant?
On l'a trouvé comme ça. C'est les anciens propriétaires qui sans doute avaient fait un voyage là-bas, dans l'île de Marie Galante, qui ont rapporté ça. Donc je suis très heureux parce qu'en même temps, c'est la Marie Galante de Christophe Colomb, puisqu'un de ses bateaux s'appelait Marie Galante, et puis cette même là-bas. Donc ça donne un cachet un petit peu comme ça.
Enfin, pour un religieux, ça pose problème.
Mais... Oui, ça ne fait rien. On est tous on est tous galants.
On est tous galants, oui.
On est tous galants.
C'est ça, le bateau de Christophe Colomb.
Est-ce qu'une orientation chrétienne joue un rôle parmi le... Pas du tout.
Pas du tout. La dernière arrivée, c'est une jeune Tunisienne de 26 ans, musulmane catégorique, donc les prières, pas d'alcool, pas de vin, la viande halal, etc. Mais je suis très content de l'avoir comme voisine, parce qu'au moins on peut causer de certaines choses très intéressantes. Et puis elle est venue encore avec son contrat d'être un petit peu à l'écoute de mes besoins pour me sortir si c'est nécessaire, etc.
Paul a quatre femmes autour de lui quand même.
Hein. Oui, je suis bien entouré.
Vous avez vu, qui est sa femme de ménage. Après, il y a Aurélie qui est son auxiliaire de vie, qui vient tous les lundis et jeudis. Donc ils vont, je sais pas ce qu'ils vont faire ensemble, ils sortent en tout cas. Et puis après, en tout cas Aurélie, elle nous cuit tous les légumes pour 3 jours, et donc Paul n'a plus qu'à réchauffer à la vapeur tous les légumes et cuisiner. Donc c'est lui qui fait la cuisine, moi j'arrive, le repas est prêt. Je ne fais que la vaisselle.
Vous êtes bénis entre toutes les femmes.
Ensuite, il y a Rabab, cette jeune musulmane, qui est jeune étudiante, qui vient d'être embauchée par une association aidée, qui crée des binômes entre les personnes âgées et les étudiants. Ça permet à l'étudiant de payer moins cher de loyer, mais en échange, elle a un petit contrat de service à rendre. Et pour Paul, on lui a demandé de l'emmener à la messe tous les mardis et vendredis. Et donc, elle attend dans le salon de la maison de retraite.
Voilà.
Parce que comble du comble, Aurélie, qui est payée par le Conseil Général de l'Ardèche, n'a pas le droit de passer le pont du Rhône pour emmener Paul à Valence. Elle n'est pas assurée tant qu'elle sort de son département. Donc, et puis après, il y a moi qui bouche les trous, donc il a 4 femmes autour de lui. Et puis je vais terminer par ce petit livre que j'ai tenu à imprimer. Il y a une autre amie de Paul
Après.
Non, mais je présente, ils se serviront. Il y a une amie de Paul qui a remis en page petit livre qu'il avait écrit en 69.
En italien.
En italien.
Il pagani mi hanno parlato di Dio.
Et donc quand elle me l'a présenté, cette copine, comme ça, ben je l'ai fait renéotyper, là, comme on dit, et j'en ai prévu 25, comme ça, si Il y en a qui en veulent.
Ils serviront.
Ils se servent.
Catherine, une petite question.
Alors, ça permet le passage. Je continue, si vous permettez. Pourquoi j'ai fait ce... Comment se fait-il que j'ai 70 ans de sacerdoce alors que... Bon. Alors, en gros, donc, j'étais rentré à la Société des Missions étrangères de Paris dans le désir d'aller en Extrême-Orient comme missionnaire. C'était l'idée du départ. J'ai fait mes études, donc, en particulier à Paris, au moment où c'était l'occupation la plus sévère, 42-43. Et comme il y avait surtout beaucoup de rafles, les Allemands prenaient les jeunes pour les envoyer au service du travail obligatoire, le supérieur de la maison a dit, ne restez pas à Paris, vous les jeunes là, rentrez où vous voulez dans vos diocèses, mais ne restez plus à Paris, c'est trop dangereux. Les gens de mon cours, les garçons, mes copains de cours, donc, qui avaient l'âge raisonnable, ont été ordonnés prêtres à peu près autour de Pâques, mais moi je n'avais pas l'âge pour ça, puisque l'âge requis c'était 24 ans, et je n'avais que 22 ans et quelques. Alors, on m'a dit, écoute, on peut avoir une dispense à partir de 22 ans et demi, tu pourrais être ordonné prêtre. Débrouille-toi, il faut que tu trouves la permission, et ensuite tu trouves un évêque, tu te débrouilles. Alors j'ai trouvé le nonce apostolique à Paris, M. Ribéry, qui m'a donné l'autorisation. Ensuite j'ai cherché un évêque, c'était le supérieur d'alors des missions africaines, et même père du Saint-Esprit. Il m'a dit, écoute, à partir du 15 juin, c'était la date limite pour moi, ça faisait les 18 mois, samedi 19, je suis libre. Allez, samedi 19, et c'est comme ça qu'à samedi 19, tout seul dans cette grande chapelle, non accompagné d'un prêtre, d'un garçon turc, non russe, blanc, qui avait à peu près 50 ans à l'époque, avait demandé, certains les prêtres, donc on a eu cette ordination. Et donc, c'est de cette façon que j'ai été ordonné prêtre à 22 ans et demi. Vu avec le recul, c'est une erreur. Ça s'est trouvé comme ça. On m'a dit, écoute, vaut mieux que tu sois ordonné. Si tu pars avec ce service obligatoire, tu pourras rendre des services. Bon, aussitôt ordonné, j'ai disparu de la circulation. Je suis rentré dans mon diocèse en Maine-et-Loire à Angers. Et j'ai travaillé là pendant 2 ans. Avant de repartir pour la suite, alors la suite. Voilà l'explication pourquoi j'ai aujourd'hui à 70 ans d'ordination sacerdotale. Je trouve que ce n'est pas à recommencer, mais je dirais quand même finalement, je ne regrette rien. Dieu m'a comblé.
Heureusement, tu as de la mémoire, comme ça, pour la prochaine vie, tu sauras ce qu'il faut faire.
Tu as donc été 2 ans en France avant de partir au Moyen-Orient.
Oui, alors donc je suis parti avec l'armée, le contingent d'armée à laquelle j'appartenais.
Oh là, il y a un train.
Ah oui. Laissons passer le train.
C'est là.
Oui, la division à laquelle j'appartenais était donc en Allemagne, à Rottweil, et donc il était entendu que les armées avaient constitué un corps expéditionnaire pour aller continuer la guerre contre le Japon, qui lui n'avait pas capitulé. Et on était prêt à partir aux États-Unis pour cet entraînement avec le... Et au mois d'août 45, donc il y a eu la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, Et donc on a dit, bah, c'est fini, on s'en va. On dit, non, vous restez parce que la guerre n'est pas finie, les Japonais ont capitulé, mais en fait ils continuent la guerre, il faut qu'on récupère nos terres en Indochine, en plus à l'Indochine le Vietnam. Et donc nous voilà partis, j'ai passé donc 2 ans comme aumônier militaire, si on peut dire, au Vietnam, rentré en France pour la libération. J'ai pu repartir quelques 6 mois après en bateau pour l'Extrême-Orient, donc la mission en Chine qui m'avait été réservée dès le début aux missions étrangères, tout à fait au sud de la Chine, la province de Quizhou. Et puis là, il y a eu ce que vous connaissez, changement de régime. Monsieur Mao Tse-tung est venu nous libérer, mais pour nous la libération ça a été de se faire coincer. Et donc après 2 ans et quelques de temps d'engagement, le temps d'apprendre la langue, de s'engager dans les progrès et tout ça, finalement le temps était venu du régime communiste de s'emparer de tous les leviers de commande, de mettre à la porte tous les gens, spécialement les étrangers, en particulier donc entre les étrangers et les prêtres qui étaient assez nombreux, religieux, et donc de les faire partir. Alors il fallait trouver des moyens, on montait des procès. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc au bout de 5 ou 6 mois où on était enfermé, on est venu me chercher avec un revolver dans le dos. C'était le vendredi saint. Et on m'a amené au tribunal. Et là, l'accusation la plus dure, c'était que moi, avec mon cousin, on avait violé la nièce d'un propriétaire terrien chrétien. À l'époque, les propriétaires terriens étaient massacrés ou bien, enfin, subissaient toutes les violences possibles. Et je pense qu'il avait espéré se trouver une bonne position grâce à cette accusation envers des étrangers. J'étais là au tribunal, donc c'était vraiment le vendredi après-midi, à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Il y avait du brouhaha, qu'est-ce qui se passe. Finalement, j'entends revenir les gens, ils ont été chercher ce bonhomme qui habitait assez loin. Ils ont été chercher ce monsieur Wang, et monsieur Wang s'était pendu. Alors le procès a tourné court, on a trouvé le truc, et on m'a renvoyé dans ma prison. Puis après, 2 ou 3 mois après, on m'a mis à la porte. J'étais parti. Et j'ai rejoint le Japon. Mais l'histoire de ce procès, le truc, n'est pas terminée parce que il y a maintenant une quinzaine d'années, oui, plus que ça même, je reçois un coup de téléphone de mon ami qui était interné avec moi, qui me dit, écoute, il était de Marseille, mais viens vite à Marseille, je te paie le voyage, il faut absolument que tu viennes, on a une visite. Bon, je prends le train, j'arrive à Marseille, lui, le pauvre homme était moitié paralysé, il me dit, on va aller manger chez ma sœur. Nous voilà partis, et qu'est-ce qu'il y avait chez sa sœur? Une Chinoise, qui était journaliste et en même temps professeur d'histoire, qui avait tourné une bonne partie dans la Chine pour savoir comment les histoires de comment s'étaient produit les relations entre l'Église et le gouvernement communiste. Et cette femme avait abouti dans l'espèce de petit village, en fait de petite ville où on habitait. On lui avait parlé de cette histoire de M. Wang, et elle avait rencontré la femme, et elle venait de la part de cette famille de M. Wang nous demander pardon.
40 ans après.
Voilà. Bon, arrêtons. Assez parlé, mangeons, vivons.
Il y avait une question.
Après, il t'a envoyé où là?
Pardon?
Il t'a envoyé au Japon?
Oui, au Japon. Maintenant, je voulais partir. Je voulais rentrer déjà. J'avais une vague idée de Charles de Foucault. Après, je me suis bien renseigné. Je savais que les frères avaient commencé. Et donc, au Japon, j'aurais cassé les pieds. Je dis, je m'en vais, je vais partir. Et par chance, je tapais par quel miracle, dans la petite paroisse où j'étais responsable de la paroisse, est passé René, voyons, avec Sœur Madeleine et sa suite, qui à ce moment-là faisait les fondations. C'était la première fois qu'ils venaient au Japon. Pourquoi sont-ils arrivés chez moi? J'ai jamais compris. En tout cas, ils sont venus, ça a été le coup de grâce, car je crois avec une intervention de René, quelques mois après ou un petit année après, j'ai pu partir, je suis rentré et j'ai rejoint El Abiad pour le noviciat chez les Frères de Jésus.
Alors,
Quelle année ? En quelle année ?
55.
Alors je suis rentré du Japon en 55.
Je n'ai pas compris bien le passage, Paul. Entre les Japonais, tu as demandé de rentrer à la fraternité. Mais...
Oui, je suis rentré pour ça. Je suis rentré en Europe pour rejoindre la fraternité des petits frères de Jésus, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque.
Et donc,
pardon ?
Comment tu les avais connus ?
Ben, très jeune, j'avais connu Charles de Foucault, on avait parlé quand j'avais 14-15 ans, on avait vu un film qui s'appelait L'appel du désert. Et donc j'étais resté tout ça. Et j'avais essayé de suivre ça, et par divers courriers, j'avais su qu'il y avait donc une fondation des Frères de Jésus qui continuait la spiritualité de Charles de Foucault. Donc j'étais poussé par ça, parce qu'il y avait des choses dans la mission que je connaissais, aux missions étrangères Chine et Japon, qui ne me plaisaient pas. Donc je cherchais autre chose, et voilà.
Paul, et ta petite sœur ? Ta petite sœur, ta paroissienne.
Oui, donc dans cette paroisse où j'étais, il y avait pas mal de monde, beaucoup de jeunes baptisés, parce que après la guerre, il y a eu tout un mouvement chrétien, enfin de recherche des Japonais pour devenir chrétiens, parce que l'empereur, invité par MacArthur à faire le tour du Japon pour dire « Je ne suis pas un dieu ». Je suis un homme comme vous. Et donc il a libéré la conscience des Japonais qui, eux, s'ils quittaient le shintoïsme et renonçaient aux empereurs, c'était des mauvais Japonais. Donc, il y avait tout un mouvement et il y avait plusieurs jeunes chrétiens, en particulier dans cette paroisse, il y avait une femme, Johanna Misao, qui était une jeune chrétienne depuis 2 ou 3 ans, qui était très impliquée dans la paroisse, qui faisait des tas de choses pendant un temps, puis au bout d'un an ou deux ans, je la vois plus, ça disparaît pendant des semaines. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, je la vois qui arrive. Elle me dit, écoute, je ne viens plus parce que je suis amoureux de toi. Ah bon, c'est embêtant ça.
Tu lui as dit comme ça.
Alors, je lui dis, écoute, va parler avec un vieux missionnaire qui était là depuis 50 ans au Japon. Il va t'expliquer certaines choses. Alors, elle y est allée, elle est revenue 3-4 jours après, rayonnante, j'ai compris. Et c'était avant l'avenue de René et d'Eva. Et le jour où René et les sœurs sont arrivées, elle ne comprenait pas un mot de français, elle était là à écouter, quand ils sont partis, il m'a dit, c'est là que je veux aller. Et elle a été la première sœur japonaise à rentrer dans la fraternité. Elle vit toujours, elle m'a envoyé une lettre là, il y a un an. Très content.
Elle est toujours au Japon ?
Oui, elle est retournée après avoir été longtemps à Rome. Ça fait au moins 15 ans qu'elle est repartie au Japon. Elle est dans le Hokkaido, tout à fait au nord.
Et de là, pour arriver à Sri Lanka, comment tu fais ?
Ouf ! L'arrivée ?
Oui, parce qu'on a entendu parler que tu étais allé au Sri Lanka. Et... C'est lent et tout ça.
Ben ça c'est comme frère de Jésus à ce moment-là, c'est encore un autre truc. Comme frère de Jésus, donc c'est d'abord, après les périodes mouvementées, la Saint-Maximin, l'ONU Bichiasse, je suis parti à la demande de René, de l'évêque de Jaffna à Ceylan, Sri Lanka. Donc j'ai rejoint le Sri Lanka où il n'y avait que les frères de Jésus à l'époque. Moi j'étais tout jeune frère de l'Évangile, mais on m'a envoyé là, reçu par machin qui était là, qui est maintenant très malade en Inde.
Michel Sandel.
Et donc je suis resté au début, ensuite les deux frères de Jésus sont partis pour les études, je suis resté, Pierre Marjouin à ce moment-là, on a résisté quelques temps, c'était un peu la révolution entre le sud et le nord, avec toutes les lois et nouvelles, Pierre a dû partir parce qu'il avait qu'un petit visa. Je suis resté seul pendant un certain temps, et puis à la fin, j'ai dû partir moi aussi, parce qu'il y avait tout un système. Il fallait, avec la nouvelle révolution, c'était encore une révolution socialiste, les étrangers qui voulaient vivre au Ceylan devaient payer une taxe qui correspondait au salaire à mon salaire d'une année. Alors j'ai renoncé, et j'ai dit à René et on rentre. Il m'avait dit, ben, si tu veux aller au Japon avec Pierre. J'ai dit non, pas avec Pierre parce qu'il est incapable d'apprendre une langue. Et alors du coup, je suis rentré par voiture, j'ai fait tout un voyage à travers l'Inde, le Pakistan. Et ensuite, on m'a dit en arrivant, tiens, si tu veux aller au Cameroun. Et je suis parti au Cameroun, retrouver André et compagnie. Rapatrié pour raison de santé, je suis venu en Sardaigne, puis à Spello, puis de nouveau à Beni Abbès, où j'ai fondé, commencé la fraternité de Beni Abbès. De nouveau très malade, j'ai dû rapatrier, et après un temps de repos, je suis parti en Sicile, où j'ai survécu pendant, non, je n'ai pas survécu, mais une période très intéressante en Sicile pendant plus de 12 ans, et puis je suis rentré pour prendre ma retraite. Voilà, le roman est fini.
Combien d'années au Cameroun?
Pardon?
Combien d'années au Cameroun?
4 ans.
4 ans.
4 ans en Chine, 4 ans au Japon, 4 ans à Ceylan, 4 ans au Cameroun, et voilà, c'était les 4 ans. 4 ans. 4 ans.
Non, mais il paraît que tu étais professeur d'Ouldémé. Il y a un de tes élèves qui est ici, il faut quand même que tu le dises.
Et j'ai pris la suite, il avait construit une case à Dibon.
À Dibon.
À Kayamohour. Il avait construit 3 petites cases. Et c'est moi qui habitais là-dedans pendant 2 ans après.
Ah. C'est pas 3 immeubles, hein, c'est 3 cases. Hein.
C'est 3 cases. Hein? C'est 3 cases.
Une cuisine, une chapelle et une chambre, ça que ça veut dire.
Mais
non. Pas s'il a entendu. T'as pas entendu, si?
À Dibon.
Est-ce que t'as entendu ce que...
À Kayamoko.
Ce que vient de dire Jean. C'est une histoire que t'avais construit des cases qui lui ont servi après comme logement.
Oui, c'était des cases où j'allais de temps en temps, j'avais des trucs comme ça.
Ah bon?
Oui.
Mais moi j'y allais après te...
Ah ben tu faisais bien.
C'est le deuxième mois que j'étais là-bas.
Oui, tu n'y retourneras plus, ni moi.
Ah, il a envie d'y retourner, lui.
Bon. Passez par les mangeons et buvons.
On
va passer aux choses sérieuses. Oui,
réjouissons-nous. Et il était mon professeur, vous me donnez à Spello.
Oui, à Spello.
Et quand on dit qui a fondé Spello, ben moi je suis le tamoul.
J'ai appris, j'ai essayé d'apprendre le tamoul à Philip Stevens, ça ne rentrait pas. Il était très malade, enfin très mal, il sortait du noviciat et il avait tout à résoudre dans sa vie. On l'a envoyé au Sri Lanka, lui frère de Jésus, moi frère de l'Évangile, c'est moi qui étais chargé de l'initier, ça n'allait pas, ni l'anglais, ni la nourriture, ni ça n'allait pas, bon, Philippe a dû rentrer, et ensuite, ben, donc, moi rentré du Maya Ouldémé, je me suis reposé à Spello, et j'ai trouvé Philippe et Jean qui se préparaient à partir, alors j'aurais donné les premiers éléments de Ouldémé pour qu'ils arrivent en Afrique déjà un petit peu.
Oui, en Sicile, on était ensemble.
Et en Sicile, j'en ai connu beaucoup.
Beaucoup de frères.
Beaucoup de frères.
J'ai 12 ans.
Oui. Donc j'ai connu Giovanni Cava, qui est
aussi.
Et Tony Brunier, je ne sais pas si vous connaissez qui. Il y avait donc Luciano. Qui est parti, qui rejoint l'Italie maintenant. On n'a plus de nouvelles du doigt. Alors que quand il était à Lyon, on communiquait des nouvelles. Il est parti chez lui, l'évêque aurait autorisé.